du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 28e dimanche. Comme Jésus se met en route, un homme accourt, se jette à genoux devant lui et l'interroge.
« Bon maître, que ferai-je pour hériter de la vie éternelle ?»
Jésus lui dit.
« Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sauf un seul, Dieu. Tu connais les préceptes ? Ne tue pas, ne sois pas adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. »
Celui-ci lui dit.
« Maître, tout cela, je l'observe depuis ma jeunesse. »
Jésus fixe sur lui son regard avec amour et lui dit.
« Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. »
À cette parole, celui-ci devint sombre et s'éloigne tout triste, car il a de grands biens. Jésus porte son regard à la ronde et dit à ses disciples.
Pour ceux qui ont des richesses, comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu.
Les disciples s'effraient de ces paroles. Jésus reprend la parole et leur dit.
Enfants, comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le règne de Dieu.
Ils sont extrêmement impressionnés et se disent entre eux. Mais qui donc peut être sauvé? Fixant son regard sur eux, Jésus dit.
C'est impossible à des humains, mais pas à Dieu. Oui, tout est possible à Dieu.
Pierre se met à lui dire.
Voici que nous avons tout laissé pour te suivre.
Jésus répond.
Amen, je vous dis, il n'y a personne qui laisse maison, ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou champ, à cause de moi et de l'Évangile, sans recevoir au centuple, maintenant, en ce temps-ci, maison et frères et sœurs et mères et champs et enfants, avec des persécutions, et, dans le monde qui vient, la vie éternelle. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Voici une page d'Évangile qui risque de donner des sueurs froides à tous ceux et celles qui ont quelques biens, comme à ceux et celles qui ont consacré leur vie au Christ et qui se trouvent interpellés par la finale du récit. Ont-ils bien tout laissé? À quelles persécutions doivent-ils s'attendre? Mais ce sont aussi tous les baptisés qui peuvent se demander s'ils sont appelés à ce radicalisme.
Alors regardons d'abord le contexte. Eh bien, nous sommes dans la montée à Jérusalem entre la deuxième et la troisième annonce de la Passion où Marc nous livre l'enseignement de Jésus. La liturgie de ce jour nous donne le dernier volet d'un triptyque. Les deux premiers volets formaient l'évangile de dimanche dernier. C'était le mariage, que l'humain ne sépare pas ce que Dieu a accouplé, et l'accueil du règne de Dieu à la manière de l'enfant, qui n'accueille pas le règne de Dieu comme un enfant n'y entre pas. Et aujourd'hui, eh bien, ce sera l'usage des biens de ce monde par les disciples, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu. Eh bien, ce texte lui-même se divise en trois scènes. D'abord, le dialogue entre un riche et Jésus, puis un dialogue de Jésus avec ses disciples, et enfin, un petit discours, si on veut, de Jésus en réponse à une question de Pierre sur le sort qui leur est réservé à eux, les disciples qui suivent le Maître.
Comme Jésus se met en route, un homme accourt et se jette à genoux devant lui et l'interroge. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?»
Mais habituellement, on parle du jeune homme riche, sans doute à cause de Matthieu qui parle d'un jeune homme. Marc, lui, ne précise pas l'âge de celui qui vient trouver Jésus et qui se jette à genoux devant lui, une attitude qui manifeste un très grand respect à l'égard de la personne du maître, comme le lépreux qui tombe à genoux et qui supplie « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Mais alors que l'homme l'appelle « bon maître », voici que Jésus fait une réponse qui peut nous paraître étrange. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sauf un seul, Dieu. » Dans le passage parallèle, dans l'écrit de Matthieu, le texte est un peu différent, mais la bonté est encore notée.
« Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon ? Unique est celui qui est bon. »
En vrai maître de sagesse, Jésus renvoie à celui qui est la source de tout ce qui est bien et bon. Il a fait la même chose, d'ailleurs, à propos de l'unité du couple. Dieu est un, et c'est parce que Dieu est un qu'il a fait l'humain pour qu'il soit un lui aussi. Les livres bibliques disent cette bonté de Dieu. Le récit de la Genèse, par exemple, qui raconte poétiquement la création, est rythmé par l'affirmation de la bonté.
Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon.
Le psaume 136, lui, rend grâce pour l'amour et la bonté de Dieu qui sont manifestés dans ses œuvres.
Célébrez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Il est l'auteur intelligent des cieux. Il donne du pain à toute créature.
Mais le don principal de Dieu, ce qui fait vraiment sa bonté pour nous, c'est son enseignement dans la Torah, dans l'enseignement de Dieu qui est révélé par la Bible.
Tu es bon, Seigneur, et dans ta bonté, enseigne-moi tes commandements.
D'après Philon, les 10 commandements reflètent la bonté de Dieu, car le Seigneur est bon et il est la cause de tous les biens. Et on retrouve la même affirmation dans un écrit juif, les Sentences des Pères, qui s'appelle le Pirkei Avot.
Il n'y a rien de bon hormis la Torah. Il est dit en effet dans Proverbe, « Oui, c'est une bonne doctrine que je vous ai transmise. Ne répudiez pas mon enseignement. »
Eh bien, ce lien entre la bonté de Dieu et son enseignement explique sans doute le fait que Jésus fait aussitôt appel aux préceptes de la Torah. Tu connais les préceptes. Ces préceptes se trouvent dans l'Exode au chapitre 20 et dans le Deutéronome au chapitre 5. « Ne tue pas, ne sois pas adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages. » « Honore ton père et ta mère ». Ces préceptes sont répétés par les Juifs au cours des assemblées liturgiques. Ils sont, pour les Juifs, la parole même de Dieu. Et ce sont ces préceptes qui doivent diriger la vie des fils et des filles de Dieu, car c'est par eux qu'on peut vivre selon l'esprit même du Créateur. Et vivre selon l'esprit de Dieu, eh bien, c'est vivre de la vie divine, la vie éternelle. C'est bien la réponse à la question qui a été posée, que faire pour hériter de la vie éternelle ? Dans un écrit juif aussi, le Talmud babylonien, on trouve une demande semblable qui est adressée à un autre rabbi, Eliezer ben Hyrcanos.
Rabbi, enseigne-nous les chemins de la vie, pour que nous entrions par eux en possession de la vie du monde à venir.
Remarquons que Jésus ne cite des 10 préceptes que ceux qui ont trait aux relations humaines. Il laisse de côté les premiers préceptes qui concernent l'adoration au Dieu unique. Ces préceptes qui concernent les relations humaines peuvent en effet être appliqués par tous les êtres humains et pas seulement par les Juifs ou par ceux qui croient en Dieu. L'ordre dans lequel les préceptes sont cités n'est d'ailleurs pas exactement celui des livres bibliques. On dirait que les commandements vont du tort le plus grave, qui est l'homicide, au moins grave, faire un tort quelconque. Et ils se terminent par un commandement positif en faveur du père et de la mère. Le précepte « ne fais pas de tort à personne » ne se trouve pas d'ailleurs dans les 10 préceptes. Il peut certes évoquer les 9e et 10e préceptes, mais on peut aller chercher d'autres textes de la Bible qui concernent la protection des plus démunis et où il est question de ne pas faire de tort.
Tu ne feras point tort aux mercenaires pauvres et indigents, d'entre tes frères ou d'entre les étrangers qui demeurent dans ton pays. Je me hâterai de témoigner contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, a dit l'Éternel.
Voilà, faire tort aux mercenaires, faire tort à l'étranger. Le respect qui est dû aux parents se traduisait souvent par un certain soutien financier, puisqu'à l'époque, les parents âgés n'étaient pas aidés par l'État, et ils étaient à la charge de leurs enfants qui devaient les préserver du déshonneur de la pauvreté. L'Évangile rapporte une autre réponse de Jésus, à peu près identique, où il met sur le même rang les préceptes de l'amour de Dieu et du prochain.
Le premier de tous les commandements, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci.
Aux scribes qui partagent cette interprétation de la Torah, Jésus déclarera qu'il n'est pas loin du règne de Dieu. On retrouvera aussi ce choix de mettre surtout les commandements du prochain en avant dans la parabole du jugement dernier.
Venez, vous tous, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le règne. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. En tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même.
Voilà, on aime Dieu et on aime son envoyé Jésus dans la mesure où l'on aime les plus petits, c'est-à-dire les gens qui sont sans intérêt et pour lesquels il ne peut y avoir qu'un amour gratuit. Et comme le dira la première lettre de Jean, cet amour gratuit du prochain est la condition de notre amour de Dieu.
Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime point son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Le récit évangélique de Luc nous dira d'ailleurs qu'imiter le Père qui est Dieu, c'est être bon.
Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux.
Donner la première place dans sa vie à la bonté envers l'autre, cela fait vivre déjà en communion avec celui qui est le seul bon, le Dieu vivant. La miséricorde, la générosité, la bonté, la gratuité de l'amour, voilà ce que c'est que vivre à la manière de Dieu. Vivre à la manière de Dieu, c'est aimer. Et aimer comme Dieu, c'est vivre de lui et par lui pour l'éternité, comme le dit très bien la lettre de saint Jean.
Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort.
Eh bien ici, ce jeune homme semble mettre en pratique ses paroles de vie, puisqu'il répond « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. »
Jésus le regarda et se prit à l'aimer et lui dit, « Une seule chose te manque, va. Ce que tu as, vends-le. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. »
C'est une caractéristique de l'évangile de Marc que de noter les sentiments de Jésus. Ce regard rempli d'affection que Jésus porte à l'homme riche, de même que l'accueil des enfants qu'il serre dans ses bras. Et cela nous rend Jésus certainement très proche. Mais ce regard d'affection n'est pas seulement l'expression d'un sentiment du cœur ou l'expression d'une grande estime ou d'une profonde sympathie. Il s'agit bien plus de ce regard d'amour qui nous appelle à devenir ce que nous sommes vraiment, un regard d'amour qui nous invite à grandir nous-mêmes dans l'amour. Et Jésus va inviter son interlocuteur à ne pas en rester à la stricte fidélité aux préceptes et à aller plus loin.
Qu'est-ce qui manque à cet homme?
Il a demandé ce qu'il fallait faire. Peut-être se demande-t-il s'il doit allonger ses prières ou ajouter quelques journées de jeûne ou multiplier ses aumônes. Et Jésus lui répond d'une manière un peu déroutante. Une seule chose te manque. Alors peut-être que l'homme a dû être fier et rassuré. Il ne lui manque qu'une chose. Il est donc tout près du but. Mais cette seule, cette unique chose est capitale. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. N'oublions pas que l'homme juste dans la Bible, c'est celui qui réussit en affaires et que ses richesses sont perçues comme un signe de la grâce de Dieu. Alors, comment se fait-il qu'il faille tout abandonner pour rejoindre la vie éternelle, comme le propose le Maître? Lâche ce que tu as, lâche tes biens financiers dans lesquels tu places ta sécurité, dans lesquels tu programmes ton bonheur, car cela te trompe. En effet, le bonheur n'est pas dans ce qu'on a et que l'argent permet d'obtenir, mais dans l'amour qu'on reçoit des autres. Et nous retrouvons ici l'idée fondamentale des béatitudes. Le riche est malheureux car il a mis son bonheur dans les consolations. Peut-être nous pourrions dire les plaisirs que l'argent lui procure, les plaisirs de la table, le plaisir des vêtements élégants qui nous distinguent des autres, le plaisir du confort matériel. Tout cela, nous nous le procurons à nous-mêmes et cela risque de nous enfermer sur nous-mêmes. Mais ce bonheur nous trompe, il n'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les choses, mais il se trouve dans l'amour vrai, l'amour gratuit. Ce que l'on croit être le bonheur n'est souvent que le plaisir, et le plaisir se trouve dans la consommation des biens matériels, consommation de nourriture, de boissons, de sexe. Mais le plaisir disparaît dès que le bien consommé est épuisé et consumé. Nous pouvons même nous rendre dépendants de ces biens, dans la mesure où nous voulons avoir de plus en plus de plaisir. Oui, le plaisir n'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur se trouve dans la joie. Et la joie a sa source dans le bien inépuisable qu'est l'amour. L'amour que l'on reçoit gratuitement et l'amour que l'on donne gratuitement. L'amour vrai est toujours reçu comme un don, une grâce. On ne peut l'exiger des autres, on ne peut pas non plus l'acheter. L'exiger comme l'acheter, c'est le tuer. La vie de l'amour, c'est une vie à la manière de Dieu, oui. Vivre d'amour vrai, c'est vivre de Dieu, c'est hériter la vie de Dieu, une vie qui est éternelle. L'invitation faite par Jésus pourrait se résumer ainsi. Si ton bonheur dépend uniquement des plaisirs que tes biens te procurent, alors tu ne vis pas encore vraiment de l'amour, et tu ne vis donc pas de la vie divine. Lorsque tu auras donné tous tes biens, tu n'auras plus rien pour te faire plaisir à toi-même. Tu pourras alors être ouvert à la joie qu'on reçoit des autres, et celle que l'on donne en se donnant soi-même. Malheureusement, cet homme ne saisira pas l'invitation de Jésus à cette parole. Il devient sombre et s'éloigne tout triste, car il a de grands biens. Il est passé à côté de la joie, de celle que Dieu veut donner dès maintenant. Tu auras un trésor dans le ciel.
Pour ceux qui ont des richesses, comme il sera difficile d'entrer dans le règne de Dieu.
Jésus ne s'adresse plus seulement à cet homme riche, mais à tous ses disciples. Et les disciples s'effraient de ses paroles. Pourquoi est-il si difficile d'accueillir et de vivre le règne de Dieu? Ce n'est pas par hasard que la première béatitude s'adresse d'abord aux pauvres. Ils sont sur le droit chemin du bonheur, les pauvres, car le règne de Dieu est le leur. Ceux qui sont dépendants des richesses ne peuvent entendre la parole d'amour de Dieu qui les invite à trouver leur joie dans l'amour donné et accueilli. Rappelons-nous la parole du semeur.
Les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit.
Dans notre société moderne, une publicité pernicieuse assaille nos cœurs et nous rend prisonniers de toutes sortes de maîtres qui nous tiennent en esclavage. Écoutons de belles paroles de Jean Sullivan.
La seule question d'aujourd'hui est celle-ci. Comment casser la logique des sociétés modernes qui conduit inéluctablement à l'esprit de servitude et à ce qui suit? Bien entendu, je n'ai pas de réponse. Mais je veux dire une chose simple, à ras de terre, possible immédiatement, qui s'adresse à n'importe qui. Qu'un nombre de plus en plus grand d'hommes et de femmes prennent conscience de la servitude invisible, de l'esprit de servitude qui règne sur nous, se mettent à distance des images, des discours, échappent aux obsessions collectives, refusent d'être manipulés, s'exilent intérieurement, non sans humour ni joie, afin d'être présents à une autre réalité.
Être présent à une autre réalité, c'est être justement présent à cette vie spirituelle dans l'amour. Cet enseignement de Jésus sur la difficulté d'allier richesse et gratuité de l'amour s'adresse à tout disciple, quel qu'il soit. Mais on peut aussi lire cet épisode comme celui d'un appel plus particulier adressé à ceux que Jésus appelle à le suivre concrètement dans sa vie de mission. « Viens, suis-moi ». C'est le même appel que celui qui a été lancé aux quatre premiers disciples.
« Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivent.
C'est le même appel qui a invité Lévi, le publicain.
En passant, il voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, et lui dit « Suis-moi ». Il se lève et il le suit.
Suivre le maître dans sa mission de proclamation de l'Évangile, c'est en effet accepter de se détacher de tout ce qui fait la vie ordinaire, maison, famille, travail. Ce détachement est commandé par le genre de vie que Jésus a choisi. Une vie itinérante sur les routes de Galilée, une disponibilité aux foules qui demandent un enseignement, un accueil de ceux qui sont malades et de tous ceux que la société a marginalisés. Cette présence à tous fait que Jésus et ses apôtres n'ont pas toujours le temps de manger, qu'ils doivent dormir comme ils le peuvent, à la belle étoile, sans même parfois une pierre comme oreiller. Pierre, qui est conscient de l'effroi qui a gagné les disciples devant les paroles du maître, amorce une question. « Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. » Et la réponse de Jésus va lui permettre de mieux préciser ce qui attend concrètement ses compagnons de mission.
« Amen, je vous le dis, il n'y a personne qui laisse maison ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou champ, à cause de moi et de l'Évangile, sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, maison et frères et sœurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde qui vient, la vie éternelle. »
Avec des persécutions. Eh bien, vivre l'Évangile, en effet, avec passion, c'est toujours s'exposer à être persécuté, comme le Christ l'a vécu lui-même. D'autres paroles de Jésus le disent clairement.
« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. »
Après Pâques, les disciples vont connaître effectivement l'hostilité des autorités juives de Jérusalem. Plus tard, les chrétiens de Rome, auxquels sans doute s'adresse ce récit de Marc, seront également persécutés. Il aura peut-être fallu à certains, lors de leur conversion, rompre avec leur famille, abandonner leurs biens. Voilà pour les persécutions, mais vivre selon l'Évangile, c'est aussi connaître le bonheur que Jésus a connu. Ce qu'on laisse est énuméré avec des « ou ». Et ce qu'on reçoit est énuméré avec des « et ». Et maison, et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs. Et c'est peut-être une autre manière, comme le centuple, d'exprimer la joie surabondante qui est promise aux apôtres. Si on laisse la maison, on reçoit des maisons. Si on laisse sa mère, on reçoit des mères. Comment comprendre cela? Eh bien, c'est sans doute parce que le missionnaire aura pour famille, pour frère, pour sœur, pour mère, pour enfant, tous ceux et celles qui écoutent la parole et qui deviennent avec lui disciples de Jésus. Oui, le missionnaire, comme le Christ, ne sera jamais seul.
« Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. »
Mais remarquons-le, si l'on quitte son père, on ne reçoit pas d'autres pères. Et nous avons là sans doute l'écho de cette parole si souvent répétée de Jésus, « Vous n'avez qu'un seul Père, le Père des cieux. » Eh bien, devant les difficultés pour entrer dans le règne de Dieu, la question que Pierre s'est posée est peut-être la suivante. Leur attachement à Jésus peut-il leur permettre de réaliser l'impossible? De réaliser cet exploit comparable à celui d'un chameau tout bardé de bardas qui va passer par le trou d'une aiguille? Oui, avec ses lourdes charges, le chameau évoque bien le riche qui est encombré de ses biens. Alors oui, la question de Pierre est celle-là. Le détachement demandé par Jésus est-il donc possible? Eh bien, la seule réponse a déjà été donnée. Pour l'être humain, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Tout est possible à Dieu. Et cela est possible avec Dieu, car lui seul est le bon. Il est la source de l'amour. Et nous n'avons qu'à nous ouvrir à cette source pour être nous aussi remplis de son amour. Oui, le secret de la vie de disciple se trouve dans la bonté généreuse. Dans cette bonté généreuse que Dieu lui-même se propose de vivre avec nous, dans la mesure où nous sommes en communion avec Jésus, son bien-aimé, notre frère et notre Seigneur.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous pouvez également vous abonner soit au feuillet, soit aux cassettes pour 3 mois, 6 mois ou 1 an. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.